national des procureurs généraux sur les narcotiques et les drogues dangereuses.
Pour combattre efficacement ce fléau, il faut que chacun d'entre nous essaie de concevoir et d'imaginer ce qui se déroule dans l'esprit envoûté des toxicomanes. Par exemple, un toxicomane sous l'empire des drogues appelle le mégot un proche, un cafard, disons. Car il y voit un genre de cafard. Or, ce genre de comparaison morbide...
Putain, mais de quoi il parle, ce con-là? Il faut être raide à l'acide pour trouver qu'un joueur ressemble à un cafard. Tu te merdes.
Tous les lundis, à 21h, sur Radio Canu.
Cannabis Circus.
Cannabis Circus.
Cannabis Circus, bonjour à toutes, bonjour à toutes. Vous êtes bien sur Radio Canu 102.2 MHz, la plus rebelle des radios. Et c'est l'émission du cirque comme tous les lundis soirs sur la plus rebelle des radios.
Voilà, voilà, bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc ce soir au sommaire de Cannabis Circus, pas mal d'infos, des faits divers comme toujours.
Et dans certaines villes, le CBD serait en vente libre. C'est assez étrange, on va voir un petit peu.
À Lyon aussi, hein.
Un petit peu là-dessus.
À Lyon aussi, hein.
À Lyon aussi, on en trouve.
On en trouve pas loin d'ici, à moins de 300 mètres à vol d'oiseau, là.
D'accord, donc il faudra essayer ça. On reviendra aussi.
On a compte déjà essayé, hein.
On reviendra aussi sur le Gaulois qui vient d'être retrouvé, qui avait avec lui dans sa tombe du vin et du cannabis. C'était en 2 siècles avant Jésus-Christ, alors pour ceux qui nous disent que c'est quelque chose de nouveau.
Ouais, bah, c'est même surprenant qu'ils soient surpris d'en trouver, hein, d'ailleurs, on en reparlera.
C'est pas surprenant qu'ils soient surpris. Mais...
Bah si, moi je trouve ça surprenant qu'ils soient surpris. Hein. Quand on s'attardera sur l'article, tu verras qu'ils ont été surpris.
D'accord, on viendra aussi sur cet article de Constantin, je sais pas trop bien ce qu'il fait ici.
Constantin ?
Oui.
Bah, il déverse son fiel.
Voilà, je
te laisse. Pas forcément obligé de lire tout l'article, mais au moins les bons passages, les belles conneries qui nous sortent, parce que c'est quand même gratiné. Hein.
Je te laisserai.
Si tu veux.
Le lire en partie. Il y a aussi un autre un petit peu plus intéressant sur la politique, c'est avec de Renault, Colson, tout à fait, sur la forfaitisation de l'usage, ou du délit de l'usage, plutôt exactement, la prohibition qui continue. Après, on aura deux sociologues, Anne Coppel et Michel
Kokoreff.
Kokoreff,
dont on a régulièrement parlé ici ces dernières années.
Voilà, prendre les usagers de drogue pour des fous ou des suicidaires est un contresens. Voilà, quelque chose d'assez intéressant au moins, ça change un petit peu. D'autres choses, un texte des Insoumis, quelqu'un des Insoumis.
Hugo Bernalicis, qui me semble-t-il est également journaliste. Puisqu'il me semble qu'il officie également dans l'émission de Yann Barthez, qui s'appelle Quotidien, nous fait un petit édito, en fait, où il explique en quoi la contraventionnalisation est inefficace. Par contre, un certain nombre de ses arguments ne sont pas forcément très clairs, et sa conclusion, pour le moins, peu éthique. Je trouve. Voilà, on en reparlera.
Et enfin, un dernier article sur le Canada.
Ah oui, avec un ancien sénateur qui se prononce plus ou moins contre la réforme sur la légalisation de la marijuana au Canada, mais ce qui est plus surprenant, c'est qu'il pense que Trudeau va être responsable de quelques décès par rapport à la légalisation. Voilà, le fait qu'il légalise, ça va tuer des gens. Voilà. Ouais, absolument rien compris celui-là. Voilà, un peu tout ça donc ce soir dans notre émission. Et avant de partir plus en profondeur dans cette revue de presse, on va commencer par vous narrer cette histoire d'un quadragénaire proche de Moret-Loing et Orvanne. Je ne sais pas exactement dans quel département se trouve Moret sur Loing. Je crois que c'est 77, mais je suis pas sûr. Donc, Champagne-sur-Seine, Thomerie, enfin voilà, dans ces endroits-là. Et il y a eu une opération de sécurité routière mardi 10 avril, donc la semaine dernière, et ils ont arrêté un conducteur d'une voiture, d'une Audi A4, qui, au moment de l'arrestation du véhicule, il a ouvert sa fenêtre et il se trouve que ça sentait le cannabis à l'intérieur. Donc ce gars était visiblement pas très prudent parce qu'il fumait au volant. Donc il a été interpellé. Il était déjà connu par la police pour des faits déjà liés à la consommation de stupéfiants. Et il reconnaissait en avoir consommé et en avoir sur lui. Alors les policiers ont retrouvé sur lui de l'herbe en petite quantité, un grinder, un peu de résine. Donc il est interpellé, mis en garde à vue.
Ils continuent, ils vont chez lui.
Voilà, ils trouvent chez lui donc 24 plants, dont certains prêts pour une collecte prochaine. Une collecte, j'aime bien ça, une collecte prochaine, et d'autres en phase de pousse. Je vous lis texto ce qui est écrit dans l'article. Et les fonctionnaires de police découvrent tout le matériel pour une culture illégale, donc des lampes au sodium, des humidificateurs, de l'engrais, mais aussi un calepin. Il était visiblement assez assidu pour cette culture personnelle et il renseignait tout un tas d'informations dans un calepin. Donc c'était tout consigné au jour le jour apparemment. Les policiers ont déterminé qu'il avait commencé sa culture en 2015, procédé à 6 récoltes. Il a quand même été laissé libre à la fin et sera présenté devant la justice le 5 juillet prochain sous la forme du plaidé coupable pour des faits présumés d'acquisition, détention et usage illicite de stupéfiants. Alors c'est ça que j'ai pas trop compris, parce qu'il est interpellé, on va chez lui, on trouve qu'il cultive. Et il est poursuivi pour l'acquisition, la détention, bon, ça encore, et l'usage illicite, ça je comprends, mais l'acquisition, bon, ils ont tout mis dedans, je pense que c'est le seul délit, le texte qui prévoit ça. Et tant mieux, à la limite, s'il n'est pas poursuivi pour production de produits stupéfiants, parce que là, c'est encore autre chose. Donc le 5 juillet, il est convoqué. S'il ne se présente pas le 5 juillet, il sera reconvoqué, visiblement, alors là, au tribunal correctionnel de Fontainebleau, le 26 novembre prochain. Voilà, donc, moralité de cette histoire, si vous prenez le volant, abstenez-vous au moins de conduire en conduisant, parce que s'il y a un contrôle et que ça sent dans votre véhicule, vous êtes marron. Voilà, donc il faut quand même faire gaffe, il faut être prudent. C'est pas légal en France, encore une fois, on le rappelle, mais voilà, on se bagarre pour que ça le devienne. Ça l'est pas, et en l'occurrence, si un jour ça le devient, je suis pas sûr que ça le soit en conduisant, de toute façon.
Oui,
faites attention, si déjà qu'on est quand même mal vu, stigmatisé, poursuivi, criminalisé, harcelé, etc. Bon, si en plus on n'est pas discret par les temps qui courent, c'est compliqué, quoi. Bon, en tout cas,
De toute manière, c'est pas comme l'alcool, hein. Faut éviter de boire avant de faire des longues distances. C'est pareil pour fumer.
Oui, enfin, se trouve que l'alcool, c'est quand même légal. Si on boit au volant et tout, on peut prendre une amende. On peut, bon, effectivement, après, si on boit démesurément, on peut se voir confisquer son permis. Mais en plus de ça, pour le cannabis, c'est interdit et on peut même vous mettre en prison parce que vous avez consommé. Voilà, on peut pas vous mettre en prison parce que vous avez consommé de l'alcool. Voilà.
Oui. Ce qu'on attend, oui, c'est vrai que d'une loi, c'est que ça soit qu'il y ait un seuil fixé par la loi.
Voilà. Autre fait divers. Alors celui-ci ne se déroule pas en France, mais en Argentine. Alors, c'est le fait divers qui fait un peu sourire aujourd'hui. Des policiers argentins avaient saisi une grande quantité, enfin, de plusieurs opérations, 6 tonnes.
6 tonnes de cannabis.
Voilà, 6 tonnes.
Enregistrées.
Et après vérification, visiblement, il ne restait plus que 5 tonnes 460.
Ah voilà, alors ils sont quand même dans un entrepôt de fourrage dans la ville de Pilar, situé à 50 km au nord de Buenos Aires, donc c'est perdu quand même. Alors là-bas, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de rats. Hein. Et donc, ça a été l'explication des policiers pour expliquer pourquoi il manquait ces 540 kilos de cannabis.
Oui, c'est même pas des rats qui disaient qu'ils avaient mangé, mais des souris.
Des souris.
Ouais. Des souris auraient mangé les 500 kilos qui manquent, en fait. Ou les 440. Visiblement, ça n'a pas spécialement convaincu la hiérarchie.
Ils vont repasser devant la justice militaire ou pas militaire, mais
en tout cas, ils ont été virés pour le moment. Voilà. Alors, ce qui est quand même rigolo, c'est que le ministre de la Sécurité dit, bon, ils ont manqué à leur devoir, etc. Mais j'aime bien, il donne une explication. Il dit quand même, des souris ne confondraient pas du cannabis avec de la nourriture. Et même si un grand groupe de souris l'avait mangé, beaucoup de cadavres auraient été retrouvés dans l'entrepôt. Voilà, donc en tout cas, si vous avez chez vous du cannabis qui disparaît, n'accusez pas les souris. Ça me paraît quand même être une explication peu vraisemblable. En tout cas, ça n'a pas convaincu la hiérarchie policière argentine. Voilà. Alors, maintenant, un peu de musique. Et
allez,
on revient juste après pour
musique,
entrer dans le vif du sujet. A tout de suite.
Allez, Asti, chante une petite chanson là.
Ah ouais, mais non, mais tu délires, allez, les frébidous, vous êtes complètement ouf avec 240 à l'heure, mais c'est notre premier. Si vous pouvez, voilà, la fin juillet, c'est les congés payés, l'usine va fermer, c'est les vacances. Dans ma poche que j'ai pas payé, rush, ma tour presque neuf qui est gonflé à la toche, putain la transe. Y'a des verres avec des lambeaux verts qui nous scotchent derrière, qui se nomment des zéros sur balance. J'en ai marre, voilà, Montélimar, débouche le pinard et roule le pétard, vive la France. 30 à l'heure, c'est vraiment le bonheur, entend le moteur qui ronronne. N'aie pas peur, j'ai pas d'ange Oliver ni de rétroviseur. Écoutez-moi tous ces cons qui klaxonnent. Ah ouais, bonjour le bouchon, et avec tous ces cons qui klaxonnent dans tous les coins. Ah bonjour le nougat, allez, fais passer le pétard. Roule, 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 ma sœur. On s'arrache sur le plateau d'une vache pour faire pousser du hache, pour vendre des RH, on soit du fric. Au blaireau branché sur la techno console de Nintendo, on troll Sébastien et République. Au gogo qui se bourre dans le McDo, attire la rigo qui fout un pédigo et la colique. Et au blair qui écoute le Drucker avec leur même air en gavant leur âme sert anorexique. Sur les champs y'a des bouffons puants, j'attendais des bouffins normandes. N'aie pas peur en roulant, tant à l'heure ça va pas qu'on est beurre. Et contre les Pokémon qui klaxonnent. Oh non c'est pas vrai, sur les Champs-Elysées y'a des Pokémon. Mais c'est n'importe quoi, j'attendais vos hormones. Mais c'est une chanson, c'est complètement ouf. Mais t'as trop fumé mon frère. Allez, allez instrumental. Ouais, ouais, ouais. Allez frivillou, frivillou, frivillou. Swing, swing, ça dit quoi, feu, ça arrache, ça laboure, c'est la furie, c'est mortel. Allez, vas-y, Patrick, Patrick, astique les boutons, astique, astique, swing. Ouais. Ah. Allez, Milon, gratte le bonjour, gratte le bonjour, gratte, 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 gratte. Allez, Sylvain, slap, 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 slap. Allez, ça fait passer le pétard, tourne, tourne, tourne le pétard. Allez. Sur les toits, y'a des coches entièrement à deux langues et deux fois pour faire du cervelas pour dyslexique. Y'a des veaux bourrés d'antibio sans arrêter, sans bon pour faire des colivaux, c'est bien pratique. Y'a des poules croisées, hein, des pitbulls, n'importe de ces houppes, on est dans des ampoules hyperboliques. Dans les champs, y'a des lapins mutants qui miaulent le temps volant dans les radis géants, c'est transgénique. Tant à l'heure, c'est vraiment le bonheur, j'ai mis du super aux hormones. La nature défile à toute allure, on va droit dans le mur. Écoute-moi les prions qui klaxonnent. Attention, y'a des prions sur le tour, qu'on a dans tous les coins, écrase-les, ces ordures.
Oh, assez, laisse tomber, allez, fais tomber.
Et voilà, donc c'était Astier Frébidou.
Bien.
Eh bien, on va continuer avec, avec notre rue de presse et avec la Nouvelle République. C'est
ah oui.
Puis c'est le cas de Laurent Puisset qui attend toujours le Sativex.
Monsieur qui souffre.
Voilà, donc il est en fauteuil électrique depuis plus de 10 ans, il a aujourd'hui, puis il peut se servir que de son bras gauche et de l'amour de la vie, comme il dit. Il est atteint de sclérose en plaques. Et donc, il aimerait toujours avoir un antidouleur à base de cannabis.
À base de CBD, oui.
À cause, oui. Et surtout de CBD ou autre, je sais pas.
Ben si, 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 CBD, oui. CBD, il y a un peu de THC dedans, c'est des voilà, produits de synthèse.
Il aurait aimé le Sativex, mais il n'arrive pas à l'avoir. Voilà, il avait même fait une grève de la faim avec son association qu'il avait montée pour essayer de l'avoir, puisque c'est quand même depuis 2012 qu'il demande d'avoir ce Sativex. Et ce n'est toujours pas possible. Voilà, donc.
Oui, on parle souvent du Sativex, hein, qui n'existe pas en France, hein, qui n'est pas disponible dans les pharmacies. Alors que pourtant, il dispose d'une autorisation de mise sur le marché depuis 2014. Mais
ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le prix.
Le prix, ouais, voilà. Donc il y a un labo qui le fabrique, qui s'appelle Almirol. Et en fait, le blocage, il vient du comité économique des produits de santé qui fixe donc des tarifs, les tarifs des médicaments remboursés ou pas par la Sécu. Et donc là, la Sécu, en gros, demande à ce que le médicament soit commercialisé à 240 euros par boîte. Et le labo le considère ce prix comme insuffisant. Donc voilà, les personnes qui sont malades et qui souffrent notamment de sclérose en plaques comme Laurent Puiset, ils ne peuvent pas en avoir. Voilà, ils souffrent en silence.
Et chaque fois qu'il en parle et qu'il arrive à avoir quelqu'un au niveau du ministère de la Santé, dès qu'on lui parle du Sativex, on ne lui parle que d'argent, jamais de ses effets. Et donc il est un petit peu désappointé, quoi, le pauvre, c'est le moins qu'on puisse dire.
Ah ben oui, il a fait quand même... qu'est-ce qu'il dit, voilà, les 18 mois qui ont suivi ma grève de la faim, hein, depuis la création de l'association. Donc il a déjà fait une grève de la faim, ou il la continue, ou il va la reprendre, je sais pas. Enfin, en tout cas, il essaye de faire parler de ça. Et bon, bah, pour l'instant, ça ne marche pas. Je suis quand même étonné que ce monsieur, en tout cas dans son entourage, on n'est pas essayé d'aller lui en chercher ailleurs. Ça, il n'en parle pas du tout. Parce que bon, il y a quand même des tas de malades en France qui, voyant l'inertie des pouvoirs publics, sont allés voir ailleurs. Hein. On en connaît un ici. Alors, c'est pas la sclérose en plaques qui le concerne, mais voilà, il y a des tas de personnes malades qui souffrent, qui vont en Allemagne, en Hollande, en Suisse, pour essayer de trouver quelque chose qui les soulage, quoi. Donc nous ne pouvons que lui conseiller de se faire aider par son entourage, qui éventuellement pourrait aller lui faire quelques courses ailleurs.
Oui, mais c'est sans doute aussi pour le principe, pour arriver à avoir une réelle légalisation.
On est bien d'accord, mais en même temps, ça n'empêche pas de trouver quelque chose pour le soulager. Ça, il n'en parle pas. Peut-être que c'est ce qui se fait, hein. Il a peut-être fait exprès aussi de ne pas vouloir en parler aux journalistes. Bon, en tout cas, il souffre.
Deux articles. Un autre article dont tu nous as parlé, donc, à Besançon et dans d'autres grandes villes en France, comme à Lyon, a priori, il est désormais possible d'acheter de l'herbe et de la résine de cannabis débarrassée de ses effets psychotropes.
Alors, à Lyon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on peut acheter des huiles à base de CBD. Mais je suis quasi persuadé qu'on peut aussi trouver des herbes à base de CBD. La Suisse est quand même vraiment pas loin. Je serais quand même étonné qu'on puisse absolument rien trouver ici en France. En tout cas, il y a des gens qui s'en font livrer. Ça, c'est le cas. Bref, en tout cas, voilà, un article de l'Est républicain qui nous parle de Besançon et d'une boutique donc, qui vend des produits à base de CBD. Il y a aussi un article plus gros dans 20 minutes de la semaine dernière intitulé « Le CBD à fumer est-il légal et peut-il se substituer au cannabis ?» Donc deux articles assez intéressants avec des connaissances du sujet quand même assez approximatives. Mais bon, vu qu'on est en France, c'est pas très surprenant, et vu que c'est quand même traité par, d'une part, la presse quotidienne régionale et par 20 minutes, qui sont pas des journaux particulièrement très informés sur la question, c'est pas très surprenant.
Ouais,
non, au moins, ils ont le mérite d'en parler.
Voilà, dans le 20 minutes, il y a différence entre CBD et THC, donc c'était le docteur Alain Moral, qui est psychiatre addictologue et directeur général de l'association de prévention et de soins en relaxation.
En addictologie. En addictologie. Opelia.
Opelia. Voilà, qui dit fumer ou ingérer, le THC entraîne euphorie, sensation de bien-être, réduction du stress et relaxation. Bref, on plane. En deuxième effet,
pas cool
ou pas cool, il peut aussi provoquer paranoïa et crise d'anxiété. Le fameux bad trip. Voilà, ça c'est pour le THC. Avec le CBD, pas de défonce comme avec le cannabis normal. Les yeux ne sont pas explosés, on n'est pas stone, il n'y a pas de risque de bad trip. Et selon ses adeptes et ses vendeurs, le CBD aurait des vertus thérapeutiques qui réduiraient l'inflammation, le stress, ainsi que les nausées. Voilà, il aurait quelques avantages du cannabis sans en avoir les inconvénients.
Donc voilà, c'est ce que dit le docteur Alain Morel, hein, qui est psychiatre et addictologue. Hein.
Voilà, je trouve que c'est pas trop mal dit.
Non, c'est pas trop mal dit. C'est un peu caricatural en ce qui concerne les effets du THC.
Quand même. C'est court.
Voilà. Peut-être que c'est pour ça que c'est un peu caricatural.
Voilà. C'est dans un monde où il faut faire court, donc c'est pour ça que j'ai trouvé que c'était pas trop mal dit. Et ce qui est intéressant aussi, souviens-toi, il y avait à Marseille, il y a eu le cas de cette boutique qui avait été interdite.
Ah, c'est pas cette boutique, c'est une start-up qui s'appelait Canavap.
Voilà, en fait, leur problème c'est qu'ils ont présenté le CBD comme un médicament. Et c'est là-dessus qu'ils se sont fait taper dessus, si j'ai bien compris.
Oui, bien sûr, c'était ça qui leur avait valu des ennuis. Donc je trouve que ils ont été jugés quand même très sévèrement.
Sans doute. Voilà, mais
je suis pas certain qu'ils mettaient vraiment en avant le fait que ce soit un médicament. Enfin, ils ont parlé dedans que ça pouvait être utilisé en tant qu'affect, que ça puisse être utilisé pour des raisons thérapeutiques. J'ai pas le souvenir qu'il disait attention, c'est un médicament, le CBD, blablabla quoi. Mais en tout cas, ils ont été quand même durement condamnés. Mais en tout cas, le tribunal a considéré que c'était le cas. Pardon. Alors, un gros article quand même sur Audin 20 minutes avec donc cette interview du docteur Morel où il parle. Il parle quand même du CBD. Il y a quand même cette question aussi qui est posée. Hein. Le CBD est-il une alternative au cannabis classique ? Hein ? Là-dessus, bon, le psychiatre, il tranche pas. Hein. Il dit comme ça, hein, si certains consommateurs de CBD indiquent que ce produit détend et diminue le stress, il n'est pas sûr qu'il puisse répondre aux attentes de ceux qui consomment du cannabis pour réduire leur anxiété ou parvenir à s'endormir et qu'il ne s'agisse pas que d'un simple effet placebo. Et il rajoute, hein, il faut attendre des résultats complémentaires. Et plus loin, selon les témoignages rapportés sur le CBD, ce produit, je cite, hein, semble plutôt satisfaire les fumeurs occasionnels qui ne constituent pas le public ayant le plus besoin d'un produit de substitution au cannabis classique. Voilà. Mais peut-être que des études ultérieures, rajoute ce psychiatre, hein, permettront d'en faire un traitement de substitution pour les gros consommateurs. Voilà. Alors, on rappelle quand même que, au départ, le CBD, donc c'est un cannabinoïde du cannabis, n'est absolument pas là pour être un substitut au THC. Hein. Il faut quand même bien le comprendre. Et aussi, il y a quand même quelque chose qui convient absolument de rappeler, c'est que des études assez intéressantes qui ont été faites en Israël montrent que l'utilisation du seul CBD, sans le spectre total de tous les cannabinoïdes, est très insuffisant et voire même très peu efficace pour lutter contre un certain nombre de douleurs et de pathologies. Et ce qui fait que justement le CBD ou les cannabinoïdes puissent être efficaces, c'est quand tous sont utilisés et sont associés. Donc je pense que beaucoup de gens, y compris donc cet addictologue, à mon avis, je ne suis pas certain qu'ils connaissent ce genre de réalité, de vérité scientifique.
Aussi bien les antagonismes au sein du cannabis sont importants aussi. Ouais.
Tout à fait. Donc voilà, se focaliser sur le seul CBD pour lutter contre telle ou telle pathologie ou soulager des gens, à mon avis, ce n'est pas vrai, c'est pas suffisant. D'autre part, Bedrocan, qui est une société pharmaceutique hollandaise qui commercialise depuis bientôt 10 ans. Les fameuses petits pots jaunes et blancs de Bedrocan avec plusieurs variétés dans le mélange dans le cannabis qui est quand même fortement dosé en CBD qui est commercialisé, on trouve dedans du THC en petite quantité certes, mais il y en a. Voilà, donc effectivement je suis pas certain que le seul CBD puisse être considéré comme un substitutif au au cannabis où dedans il y a beaucoup de THC. Je pense que c'est quand même pas tout à fait le même problème.
Voilà, mais bon, c'est quand même important de rechercher des plantes plus chargées en CBD quand même.
Oui, oui, bien sûr, ouais, bien sûr.
Je pense.
Sinon, je reviens sur l'article de l'Est Républicain qui nous parle de Besançon et de ce magasin qui vend justement des herbes à base de... Enfin, fortement dosées en CBD, qui d'ailleurs pour certaines viennent de Suisse, puisqu'ils nous en parlent, et que Besançon n'est pas très loin de la Suisse non plus. Il y a des choses qui sont dites qui ne sont pas forcément vraies, je trouve, ou qui sont même très, très inexactes. Puisqu'à un moment, il est précisé, voilà, on se demande si c'est légal ou illégal. Je trouve plus. J'ai perdu mon marque-page. Je ne retrouve pas.
Il est difficile de faire la différence entre des magasins légaux ou illégaux.
Oui, bah là, effectivement, ils ont du mal à dire, à trouver une différence, hein, parce que bon, les deux variétés d'herbes ont tendance quand même fortement à se ressembler. Il n'y en a pas une qui est bleue et l'autre qui est verte, hein, on est bien d'accord.
Voilà, donc eux, ils disent qu'il n'y a pas de problème, ils peuvent prouver que leur herbe a moins de 0,2% de THC.
Voilà. Je retrouve plus ce que je voulais dire.
Bref, ils disent que c'est juste un peu plus... Avec leur herbe, c'est plus... on est plus relaxé et détendu, sans... mais on n'a pas les effets planants. Voilà, je sais pas, bon, on verra bien ce que ça donne, ce qu'on va faire avec ces herbes qui vont aussi amener des COH du coup, donc...
Non, c'est dans l'autre article, voilà, par rapport au fait qu'il soit légal. Donc, encore une fois, c'est pas clair.
Bah, de toute manière, ce n'est pas clair.
Non, parce que voilà, même à la fin de l'article, là, au moins c'est dit, voilà, en novembre dernier, on nous parle, hein, de cette histoire. Donc le ministre de la Santé, le ministère de la Santé déclarait que le CBD apparaissait comme légal, autorisant ainsi sa commercialisation en France, qui est toutefois très stricte, hein, donc à partir des taux de moins de 0,2%, etc. Mais en fait, il n'y a pas de décision juridique claire qui dirait que c'est légal ou pas. Donc pour l'instant, je pense que les pouvoirs publics sont un peu dans l'attentisme. Voilà, en tout cas, ben, il y a des magasins qui vendent des préparations à base de CBD ou d'herbes de CBD qui viendraient de Suisse. Mais on en avait déjà parlé parce qu'en Suisse, ils ont aussi fait des essais pour voir si les plantes qui étaient vendues contenaient bien du CBD, s'il y en avait qui avaient bien du THC. Donc pour l'instant, on est encore aussi un peu dans le flou là-dedans. Hein. C'est pas complètement, pas complètement clair. Et il y a même carrément des produits qui sont vendus et qui contiennent quasiment rien. Quoi. Donc bon, tout ça reste encore à... Il faut que les choses évoluent, quoi. Voilà. En tout cas, pour l'instant, c'est pas non plus super clair. Voilà, pour ce qui est du CBD et donc de ce magasin à Besançon qui vend du CBD.
Et de ces expériences, on va voir ce que ça donne, si ça va continuer à fleurir, jusqu'à qu'il, d'un coup, le gouvernement se dise « Mais c'est quoi, ça y en a de partout ?»
Ce qui commence déjà à être un peu le cas. Hein.
Voilà.
Voilà. Et je pense qu'il y a une demande, notamment de la part de gens qui sont malades, qui souffrent, qui ne savent plus vers où se tourner pour se soulager. Et donc, il y a une demande. Il y a une demande. Hein. On ne sait pas le nombre de personnes en France qui peuvent être concernées. Ça varie entre 2000 ou 5000, peut-être plus, même 10 000, je ne sais pas. Voilà. En tout cas, il y a une demande. Aujourd'hui, c'est sûr.
Voilà. Donc, on va repartir. Hop. Voir des archéologues qui ont...
Ouais, on va aller vers Clermont-Ferrand.
Voilà, où ils sont tombés sur une sépulture arvène.
Arverne.
Arverne, oui, oui, c'est ce que j'ai dit.
Non, t'as dit arvène.
Bon.
On n'a pas entendu ton deuxième R.
On n'a pas entendu mon deuxième R, d'accord. D'Arverne, d'accord. Donc du deuxième siècle avant notre ère, donc il y a 2200 ans. Et donc dans cette tombe, il y avait de la résine de conifères, du gras d'animal ruminant, du cannabis et une grande quantité de vin rouge.
Voilà, tout ça c'était dans deux récipients. Hein. Effectivement, il y avait, voilà, ce que tu dis, Donc ils ont identifié effectivement du cannabis sativa dans une tombe. L'un des archéologues, hein, Nicolas Garnier, dit voilà, ces fragments végétaux ont pu être ajoutés au vin, tout comme la résine, pour l'aromatiser et lui donner un effet psychotrope. Voilà. Donc tout ça, c'est dans le cadre, on peut le voir, hein, c'est dans le cadre d'une exposition qui s'appelle Sortie de fouille au musée Bargoin à Clermont-Ferrand et qui est présentée jusqu'au 20 mai. Donc ça a réalisé pendant les fouilles à Sébaza dans le Puy-de-Dôme. Le visiteur qui souhaiterait y aller peut découvrir le quotidien d'un village rural proche d'Augusto Nemetum, l'actuel Clermont-Ferrand. Voilà, alors ça fait l'objet de deux articles, hein, quand même. Un article dans le Parisien, intitulé « La potion magique était au cannabis ». Et ça a fait l'objet d'un autre article sur le site internet de France3Région.fr. Du cannabis retrouvé dans des sépultures de Gaulois. Alors, c'est là où je voulais justement en venir. C'est par rapport à cette surprise dont on nous parle. Je ne sais pas si c'est dans le premier article que j'ai lu ou si c'est dans le deuxième.
Dans le deuxième, on y apprend qu'ils ont découvert cette tombe en 2015. En fouillant la zone d'aménagement concertée des Montrelles 3 à Sébaza, au lieu dit Maison Blanche et Champ Roche. Et donc, voilà, ils ont mis une tranche à jour, une tranche de vie de nos ancêtres gaulois et gallo-romains. Et donc, tout ça, voilà, il y a donc un sanctuaire et des sépultures gauloises qui ont été trouvées, etc. Et là-dedans, cette fameuse tombe. Dans lequel il y avait des outres avec du vin et du cannabis.
Alors, dans un des articles, il me semble bien quand même que j'avais lu, qu'il disait qu'ils avaient quand même été surpris de découvrir du cannabis.
Oui, tout à fait. C'est dans celui de France 3, au tout début, surprenant, des traces de cannabis ont été retrouvées dans des offrandes près des corps.
Voilà, surprenant. Donc je pense que ce sont les journalistes qui ont été surpris, plus que les archéologues qui, à mon avis, en ont certainement trouvé ailleurs précédemment. Voilà, mais en même temps, ça n'a rien de surprenant. Hein. Le chanvre est une plante qui est utilisée par l'homme depuis très 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 longtemps. Hein. On l'a déjà dit ici, mais on le rappelle quand même, avec le chanvre, on peut faire du papier, on peut faire des cordages, on peut faire des vêtements surtout. Mmh. On peut faire des huiles. Avec ces huiles qu'on peut brûler, on peut faire de la lumière.
Ouais.
Des cosmétiques.
Alors, oui, mais là, ce qu'il précise, c'est pas de l'huile. Hein,
ah bah non, j'ai bien compris.
C'était vraiment, c'est très
la
rare. Et elle rajoute même, c'est très très rare. Mais nous avons trouvé des psychotropes, des traces de cannabis ont été analysées, donc précise.
Marie Bèche Wittmann.
Voilà, qui est directrice
adjointe du musée Bargoin.
Musée Bargoin.
Voilà, mais bon.
Donc c'était
ça n'a rien
autre
de
chose. Oui, ça
n'a
rien de surprenant. Mais c'est quand même très rare. Des huiles, des graines, on le savait, on a aussi trouvé des graines chez les. Dans en Égypte.
Chez les Égyptiens.
Chez les Égyptiens.
Mais on n'a pas trouvé que des graines, on a trouvé aussi du cannabis. Et en analysant les fragments de peau, enfin des fragments de corps retrouvés, ils en ont retrouvé dans les organismes des.
Oui, mais.
Également. Ouais. Donc ça veut dire qu'ils en consommaient, quoi.
Ils n'en ont pas trouvé beaucoup dans les offrandes, par contre, du cannabis.
Non, voilà, bon.
C'est ce que. Voilà.
Mais bon, enfin voilà, encore une preuve supplémentaire que le cannabis, le chanvre, était utilisé il y a très très longtemps et qui continue à l'être aujourd'hui, que ça n'a rien de nouveau et que même pour les utilisations psychotropes, voilà, bah là en l'occurrence, du chanvre de Clermont-Ferrand et pas du chanvre indien avait aussi des vertus psychotropes. Voilà, donc c'est quand même assez intéressant, mais rien de bien surprenant non plus. Voilà. Je crois qu'on va s'écouter encore un petit peu de musique et on va revenir tout de suite après.
Ouais.
Allez, à tout de suite.
« très content, il va bien s'amuser. Pour Noël, sa maman, elle lui a acheté un Big Jim très viril, entièrement armé. Il prend sa poupée Barbie, lui arrache les ovaires, la tête dans la vache qui rit, il la prend par derrière, l'empale sur son critérium. Oh, dis-moi que t'aimes ça, putain, prends la boîte d'allumettes, lui fait fondre les deux seins, coup dans les couilles. Et son dans le cul, on va bien rigoler. Elle est tripes à l'air, cotillon serpentin. On s'amuse, on rigole, on lui coupe les deux mains. Petit enfant très content, il va bien s'amuser. Les Pokémon, le journal du Hard et même les Digimon, tout ça s'est dépassé. Pour le fun à 20h, il regarde le JT. Fait l'hiver, Israël, ça tombe sur un beurre. Ah, je lèche tous les rangers, t'es qu'un raton, un beurre. Ah, y'a plus bourre de l'action, du sport et de la gaieté. Allez, vas-y, Viranque, fais tourner, fais tourner. Coup dans les couilles et œil arraché. T'es son dans le cul, on va bien rigoler. Les tripes à l'air, cotillon serpentin. On s'amuse, on rigole, on lui coupe les deux mains. Petit enfant, très content, il va bien s'amuser avec sa bande, ses copains, dans la cour de récré. Eh les mecs, on fait un Street Fighter. Ah, attendez, il y a mieux. www.guerredalgerie.com. Eh, Franck, tu fais le communiste, on joue à la GGN. Il pédale comme un fou, mais à 200 volts, il peine. Alors, Franck, à vous tout. Oh, déconnez pas, j'ai pas le droit de me salir. Changement de jeu dans la boue, il fait le rôle du martyr. Eh, coup dans les couilles et œil arraché. Des sons dans le cul. Les tripes à l'air. On s'abuse, on rigole, on lui coupe les deux mains. Solo. Enfant très content, il va bien s'amuser. Pour 20 billets et 3 calots, Thierry lui a prêté son petit frère, l'homéopathe, pendant toute la journée. Il invente un nouveau jeu, le steeple chaise roulante. Mais Steph gagne, c'est normal, lui il se fout de sa contente. Puis ils vont à la piscine et l'homéopathe veut plus jouer. Comment ça, qu'est-ce que tu dis? Glouglou, c'est pas français. Coup dans les coups. Et l'œil arraché, tout le monde.
Les sons dans le cul, on va bien rigoler. Les tripes à l'air, petit on s'apporta. On s'amuse dans les gosses, on lui coupe les deux mains.
Tout le monde
est cool dans les couilles. Et l'œil arraché, les sons dans le cul, on va bien rigoler. Les tripes à l'air, petit on s'apporta. On s'amuse dans les gosses, on lui coupe les deux mains.
Bon, tu nous as mis quoi là?
C'était les laquettes, c'était l'indispensable, l'éducation sentimentale.
Bon, d'accord.
Faut pas offrir n'importe quel jouet.
J'ai un peu du mal à comprendre ce qu'il voulait dire finalement, le sens et tout. Bon, voilà, un morceau inédit dans Cannabis Circus qu'on ne connaissait même pas nous-mêmes. Alors, après ces horreurs, on va s'intéresser à d'autres horreurs, excusez-nous. Hein. On va vous parler un peu de ce croisé de la lutte anti-drogue française. Hein, le professeur Jean Constantin, l'inénarrable professeur Jean Constantin, qui alors là, vraiment a crevé le plafond. Puisqu'il a publié une tribune sur un site plutôt réac, même carrément réac, qui s'appelle Boulevard Voltaire. Et donc voilà, nous ne vous dirons pas d'aller lire l'article sur ce site internet. On s'en est occupé pour vous. Je suis pas sûr qu'on vous le lise intégralement, mais on va quand même s'intéresser aux meilleures parties de l'article. Il dit quand même que la guerre contre les drogues en France n'a pas été perdue, hein, parce qu'en fait elle n'a pas été déclarée et que le sujet a été confié à une troisième colonne, à des infiltrés et autres desperados sociaux.
Sociétaux.
Sociétaux, bah, au début c'est sociaux, après c'est sociétaux. Dans les premières lignes, c'est sociaux, après c'est sociétaux.
D'accord.
Bref. Je cite un dire, continuer d'interdire les drogues est incongru. Le laxisme qui prévaut ne donnant pas à croire qu'elles sont effectivement interdites. L'habileté politicienne a mobilisé en cette manière la quintessence de ces florilèges. Quelques déclarations guerrières visant à apaiser le chaland. Elles suscitent aussitôt des réprobations qui justifient l'impossibilité d'arrêter l'expansion des drogues et l'impuissance publique continue de laisser dire et de laisser faire. Le budget de la nation subventionne des associations qui font l'apologie des drogues. Là, il nous parle d'ACT UP.
Tu continues de citer, donc...
Oui, je lis en tout cas une partie...
Constantin.
Jean Constantin, oui. Tu crois que je parlais de qui, là? Donc, le budget de la nation subventionne des associations qui font l'apologie des drogues, et il nous parle d'ACT UP. ACT UP qui, malheureusement, aujourd'hui, renaît un petit peu, mais jusqu'à très peu de temps, n'existait même plus, hein. Bon, je sais pas où il délire, hein, voilà. Donc des associations qui font l'apologie des drogues, nous dit-il, ou qui à tout le moins militent pour leur légalisation, donc l'Association Nationale de Prévention de l'Alcoolisme et autres addictions. Il finance le budget de la nation toujours à un haut niveau, la mission interministérielle de lutte contre les drogues et la toxicomanie, à la tête de laquelle on sévit des missionnaires, Madame Maestrachi, Jourdain Méninger et autres, Monsieur Gel, hein, Didier Gel, attention, hein, qui a fait beaucoup de mal aux usagers du cannabis, mais pour Monsieur Constantin, ce n'est qu'un vilain laxiste qui a plutôt bataillé pour la légalisation. Alors, je ne sais pas ce qu'il prend, le père Constantin, mais en tout cas, on n'a pas envie d'en prendre. Hein. Et là, il nous parle de la MILT, qui est devenue la MILDECA. Ces trois présidences, et là, à la différence de celle de M. Appert, hein, cette espèce de réac complètement à la ramasse qui n'y connaissait rien, bah lui, pour M. Constantin, c'est un héros. Hein. Donc, les trois présidences de la MILDECA ou la MILT furent manifestement au service de la légalisation des drogues, à commencer par le cannabis. Mais où il a vu ça? Franchement, on ne sait pas. Hein. Leur responsabilité dans ce désastre des toxicomanies doivent être partagées avec ceux qui les ont nommés et qui ne les ont pas débarqués quand leur dérapage devenait manifeste.
C'est vrai qu'on a du mal, parce que nous, où on voit une politique répressive prohibitionniste, lui, il voit une politique laxiste.
Et permissive.
Ouais. Donc, c'est vrai que c'est difficile. Hein.
Alors bon, j'avance. Il nous parle de l'OEDT maintenant, qui vient de donner un carton rouge à la France, fustigeant l'absence de formation, d'information de sa jeunesse sur les drogues et toxicomanie. Dès lors, on ne peut s'étonner d'être parmi les 28 États de l'Union européenne les plus intoxiqués, ni surpris de ne figurer qu'au 27e rang des performances éducatives internationales du classement PISA. Depuis bientôt 20 ans, nous réclamons cette pédagogie à des interlocuteurs aux faciès éteints, voire narquois. Sur toute la durée du secondaire, les jeunes Français ne bénéficient au mieux que d'une information de 2 heures par des intervenants spécialisés de la gendarmerie. Les enseignants, infirmières, médecins scolaires, chefs d'établissement, responsables des clubs sportifs ne sont pas formés à aborder ces problèmes. Blablabla. Voilà. Ouais. Sauf que ce qu'il ne nous dit pas, M. Constantin, c'est que des 28 États de l'Union européenne, on est celui qui est justement le plus répressif, avec les pires résultats, et que les autres pays qui ont adopté une législation ou qui sont en train d'adopter une législation beaucoup plus pragmatique et justement certainement aux yeux de M. Constantin beaucoup plus permissive, eux ont des meilleurs résultats, notamment la Hollande par exemple. Mais là, M. Constantin n'en parle absolument pas, bien entendu. Il nous parle bien entendu pas du tout du Portugal, hein, qui depuis 99 a dépénalisé l'usage des drogues et s'est orienté vers une action purement sanitaire et a complètement abandonné la répression qu'il réclame, d'ailleurs. Hein. La surdité, la cécité du monde politique à ce problème majeur pour notre nation a contribué au dégagisme, loin des salutaires changements attendus. On s'inquiète d'une banalisation supplémentaire du cannabis s'il devait prévaloir une simple contravention pour l'usager, fût-elle de 300 euros si elle était donnée en solde de tout compte. La loi de prohibition du cannabis de 70 n'a pas été appliquée par l'administration judiciaire. Ah ben là non plus, c'est vrai que les 200 000 arrestations par an, les 3 000 peines de prison prononcées et le quelques milliers de personnes qui sont incarcérées tous les ans depuis au moins 20 ans, et que si on multiplie par 1000 et quelques sur 20 ans, ben ça fait au moins 20 000 personnes qui ont été incarcérées. Pour M. Constantin, ça n'existe pas, il n'est pas au courant. Donc toujours avec l'histoire de la loi 70 qui n'est pas appliquée, elle l'a abordé, l'administration judiciaire, elle l'a abordé sur le mode du tout ou rien, oubliant opportunément le tout, ou choisissant trop systématiquement le rien. Alors que les peines maximales prévues, effectivement énormes, pouvaient être ramenées au niveau d'une amende substantielle, voire d'une brève peine de prison avec sursis, dissuadant des récidives. Non mais là, il est vraiment complètement débile ce mec. Il se rend pas compte que mettre en prison des fumeurs de joint, ça n'est pas du tout dissuasif. Il se rend même pas compte que quand on est en prison, on fume beaucoup plus qu'à l'extérieur quasiment, et qu'en plus on n'est quasiment pas inquiété si on fume de 18h à 6h du matin. Ça, visiblement, il n'en sait rien non plus. De nombreux médias, et pas des moindres, ont contribué d'une façon majeure à la banalisation des drogues en prenant soin d'occulter leurs méfaits sanitaires majeurs. Je sais pas de quel média il parle, hein. Bref, s'il parle d'actuel, c'est quand même très vieux, hein, actuel. Hein. Les statistiques maintenant ont été présentées sur le mode de l'euphémisme, déclarant que le phénomène était général. Elles oubliaient de souligner que le pire était chez nous et que nous caracolions en tête du peloton des Européens intoxiqués. Mais oui, monsieur Constantin, parce que justement, on a la loi et les dispositions juridiques les plus dures et donc les plus inefficaces. Mais ça non plus, il n'en sait rien. Et il finit par nous dire, comble d'imprudence, ceux qui ont conduit à ce désastre estiment désormais qu'au point où nous en sommes, nous n'avons plus qu'à nous rendre. Accepter la défaite, d'abord pour le cannabis et bientôt pour les autres drogues, parmi eux, Péror, des addictologues, entre guillemets, hein, qui, impuissants à guérir, prônent la drogue pour tout et la drogue pour tous. En dehors de leur domaine d'expertise, ils se font les chantres du cannabis médicament. Puis, comme pour assurer sur l'aboutissement de leurs errements, ils promeuvent les salles de shoot afin d'accueillir en fin de trajectoire ceux qu'ils auront laissé entrer dans la spirale infernale de la drogue. Alors, stop ou encore, on donne un coup d'arrêt ou on poursuit la dégringolade. Voilà, finalement, je voulais lire en entier parce que c'est tellement hallucinant ce qu'il nous écrit.
C'est hallucinant le temps que tu as perdu à lire ce...
C'est pas du temps de perdu, parce qu'il faut quand même qu'on se rende compte toutes et tous que ce type, il a quand même une certaine influence. Ceci dit, avec un article comme celui-ci, il va peut-être perdre de son influence, justement.
Bah non, parce que... après il va donner raison. Regarde, 300 euros, c'est du laxisme. Une contravention en solde de tout compte. Mais non, par mais contre, la seule différence, et c'est là qu'on va passer à l'article suivant quand même, celui de Renaud Colson, qui est un petit peu plus important, qui est d'un... maître de conf de l'université de Nantes, oui. Ouais, qui est au CNRS, bref.
Mais qui aussi travaille à l'Institut universitaire sur les dépendances de Montréal au Canada.
Voilà, donc lui, il rappelle que la nouvelle réponse pénale proposée consiste en une forfaitisation du délit d'usage. Celle-ci permettra aux forces de l'ordre d'infliger une amende de 300 euros à toute personne ayant fait l'usage de drogue, tout en laissant ouverte la possibilité d'une procédure judiciaire donnant lieu à une inscription au casier judiciaire et au prononcé d'une peine de prison. Voilà, donc il faut rappeler quand même que ce n'est pas du tout en solde. Les 300 euros ne seront en aucun cas en solde de tout compte.
Comme dit Constantin, oui.
Comme dit Constantin, voilà. Donc là, cette mesure, donc, ça c'est monsieur... Renaud Colson qui dit ça. Cette mesure s'inscrit dans la continuité d'une politique prohibitionniste répressive menée depuis plusieurs décennies. L'échec de cette approche dont il est acquis qu'elle a contribué à l'accroissement de la violence criminelle, à l'enrichissement des mafias et au pourrissement du lien social dans les banlieues explique la réaction défavorable que suscite le projet d'amende forfaitaire délictuelle chez les intervenants en toxicomanie et l'association de consommateurs. Voilà, selon ces associations, la systématisation de la répression contribuera à éloigner un peu plus du système de santé les centaines de milliers d'usagers problématiques des drogues. Elle apparaîtra en outre bien plus respectueuse du libre arbitre des millions d'usagers récréatifs non toxico-dépendants. voilà, donc il râle aussi contre le double langage.
Ah, ça utilisé, c'est intéressant, très intéressant.
Avec l'Union européenne. Où, avec les 28 autres ministres de l'Intérieur, Gérard Collomb convient qu'il faut favoriser des solutions de remplacement à l'imposition de sanctions coercitives, notamment les amendes, pour promouvoir au contraire des mesures éducatives
et la réinsertion sociale. Ce qui n'est pas du tout le cas actuellement avec cette nouvelle loi. Donc voilà, il a un discours à Bruxelles et un autre discours dans la loi en France.
Oui, j'aime bien cette phrase bien tournée. On appréciera le double langage du gouvernement, soucieux de la santé et de l'insertion des consommateurs de drogue à Bruxelles, mais pressé de les punir en France.
Voilà, et enfin, sur la filière chambrière qui est bridée.
Par la loi.
Par la loi, vu que tout est essentiellement répressif dans son approche, il n'y a aucun développement industriel.
Et oui, parce que la légalisation du cannabis médical à récréatif dans un nombre croissant de pays a contribué à ouvrir de colossaux marchés, tenus logiquement à l'écart de ce mouvement, l'industrie pluriséculaire du chanvre français risque de ne pas pouvoir en profiter, confiné à la production d'aliments pour animaux et de fibres végétales. Notre filière chanvrière est aujourd'hui bridée par une législation si prohibitionniste qu'elle entrave jusqu'au développement de produits cosmétiques, de compléments alimentaires et de médicaments à base de cannabinoïdes non psychoactifs. Les firmes étrangères, notamment nord-américaines, prennent aujourd'hui une avance qu'il sera difficile de rattraper. Plusieurs pays européens sont sensibles à ces évolutions, à l'instar des Pays-Bas qui ont réglementé la production de cannabis médical il y a près de 20 ans et se préparent à faire de même avec le cannabis récréatif. Je pensais que tu voulais finir. Bon, ok. Ce n'est pas à ce jour le cas du gouvernement français arc-bouté sur l'idée que la punition des consommateurs de drogue fera bientôt disparaître le cannabis de notre culture. Eh ben non, prendre conscience du caractère erroné de cette croyance est urgent. C'est une condition sine qua non à l'initiation d'une réflexion gouvernementale sur les enjeux sanitaires et économiques de la légalisation contrôlée du cannabis. Une réforme dont la plupart des observateurs bien informés s'accordent en privé à reconnaître qu'elle est désormais inévitable à plus ou moins long terme. Mais ça serait bien, c'est que les observateurs bien informés s'accordent en public et pas qu'en privé. Parce que tant que ça restera qu'en privé, qu'il y aura quelques personnes qui feront une tribune dans un journal ou quoi, ça ne changera pas. Quoi.
Ouais, il est urgent de mettre fin à la prohibition. Hein,
voilà. Voilà. Ensuite, autre article très intéressant.
Alors celui-là, on ne va pas pouvoir le lire. C'est un interview, une question-réponse d'Anne Coppel et de Michel Kokoreff.
Dans Libération. À propos de leur dernier ouvrage qu'ils ont écrit en commun, La catastrophe invisible, histoire sociale de l'héroïne, aux éditions Amsterdam. Vous ne pouvez pas s'inventer. Donc un groupe de chercheurs réunis autour des sociologues Anne Coppel et Michel Kokoreff et Michel Peraldi, qui font tous ensemble le récit de 40 ans d'héroïne en France, et pas que d'héroïne, ils parlent d'héroïne surtout, mais d'autres choses, et surtout du contexte qui a évolué, et comment on a, encore une fois, bah, c'est pas nouveau, hein, on n'arrête pas d'en parler, mené une véritable guerre contre les utilisateurs d'héroïne et contre les utilisateurs de, finalement, de toutes les drogues. Plus tard, dans les années 80, 90, etc.
Ouais, donc dans le livre, il y a un peu les trois histoires, celle des pionniers de 64 à 74, puis la bascule jusqu'en 68, et enfin le reflux avec la disparition actuelle, disparition
oui,
minime, mine de rien, puisqu'a priori, dans certains endroits, elle revient quand même assez fortement.
Oui, je pense qu'on n'est pas non plus dans les mêmes proportions que ce qu'il y a été dans les années 70. Quoi.
Voilà, bon, alors il raconte tout ce qu'il y avait avec les mouvements de 68, les manifs, les drogues qui sont véhiculées par la musique, avec les mouvements punk, les mouvements rock, tout ce qui tournait autour. Voilà, en reprenant avec les époques, avec les, voilà, ça peut être assez intéressant.
Oui, ce qui est intéressant aussi, ce qu'il dit, c'est que jusqu'à la fin des années 70, l'héroïne est produite dans Paris, intramuros, et que les actions de Chirac, par exemple, maire de Paris, ont été de dégager les usagers et les lieux de production dans les banlieues, qui après ont touché d'autres gens. Voilà, donc c'est très intéressant. Je vous invite à vous documenter et éventuellement, même si ça vous intéresse, à acheter ce livre de Kokoreff et Dan Coppel, qui sont des spécialistes, hein, de la question des drogues, d'usage des drogues, du sida dans les années 90, et qui sont des gens qui sont compétents. Et donc voilà, je vous invite à vous documenter à ce sujet si cela vous intéresse. Voilà, d'autres...
Oh, Non, pas grand chose à dire d'autre sur cet article.
Sur cet article, d'accord. Ah si, moi je voulais finir là-dessus, tiens, je savais qu'il y avait quelque chose dont je voulais parler. Michel Kokoreff nous parle un peu de l'addictologie et je trouve ça intéressant ce qu'il dit. Je vous signais ses dernières phrases. Ça commence avec Anne Coppel qui nous parle de l'addictologie et des addictions. Voilà. Donc le journaliste lui demande, voilà, changement de tonalité, on parle désormais d'addiction. Et Anne Coppel dit, ben oui, c'est le discours dominant qui s'est associé à une conception de santé publique très médicalisée, au détriment de la responsabilité individuelle et collective revendiquée avec la lutte contre le sida qui a émergé dans les années 90. Et Kokoreff de finir en disant, on a assisté à la fin d'un cycle, l'héroïne s'est banalisée, la dangerosité ne se concentre plus sur un produit mais sur des modes d'usage et des publics de plus en plus élargis, l'échec de la guerre à la drogue est manifeste. Par ailleurs, effectivement, tout le monde semble addict à son téléphone, à son chat, à tout. Au plan institutionnel et médical, l'addictocratie est dominante. Il est inquiétant d'entendre un discours aussi positiviste sans tenir compte de la dimension sociale et culturelle des pratiques et des contextes d'usage. Voilà. Il y a quelques années, j'en avais parlé avec un professionnel de la réduction des risques et qui n'était autre qu'un membre fondateur d'Assud et avec qui on discutait et qui m'expliquait qu'effectivement, il y avait des usagers aujourd'hui de substances hein, qui étaient particulièrement emprunts de ce discours médical sur l'usage de drogue et qui avaient complètement intégré le fait qu'être usager de drogue, c'était être un malade en fait. Et qui se rendait chez des professionnels de l'addictologie en disant, bah voilà, je suis malade, donnez-moi un cachet pour soigner mon addiction. Sauf que c'est quand même plus compliqué que ça, quoi. Et je pense qu'un certain nombre d'addictologues se retrouvent eux-mêmes pris au piège de leur propre conception.
On est encore dans ce sujet-là, hein, c'est flagrant là avec l'autre. On va pas avoir le temps d'en parler parce qu'il est 20h là, mais Hugo
Bernalicis, ouais, qui est Bernalicis, un journaliste et membre de la France Insoumise. Ouais.
Voilà, mais parce que même dans son titre, en fait, il dit tout, hein, usage de stupéfiants, mettons fin à l'approche répressive. Là-dessus, il n'y a aucun souci. On est à 100% d'accord avec tout ce qu'il raconte dans la moitié de l'article. Et privilégions le traitement sanitaire. Et là, on a l'impression d'être des toxicomanes, quoi.
Bah, d'ailleurs, c'est les mots qu'il utilise. Hein. Lui, il utilise les mots toxicomanie, donc même des mots qui sont historiquement un peu datés. Hein. Alors, il y a un certain nombre de ces critiques qu'il formule par rapport justement à la loi de contraventionnalisation qui sont assez intéressants, même si un certain nombre de ces propos, je les trouve assez peu clairs finalement. Globalement, c'est pas mal, hein, mais moi, la fin de l'article est un peu effrayante, je trouve.
On va lire la dernière phrase. Hein.
Les dernières phrases. Alors, gardons l'objectif d'orienter les usagers toxicodépendants vers des structures de prise en charge sanitaire, sociale et professionnelle. Déjà, toxicodépendants, bon. En ce qui concerne les autres stupéfiants, et c'est là qu'il faut bien entendre, en ce qui concerne les autres stupéfiants, donc que le cannabis, hein, la logique est toujours de privilégier l'approche sanitaire plutôt que répressive, jusqu'ici ça va. La France Insoumise souhaite instaurer la contraventionnalisation pour l'usage des stupéfiants autres que le cannabis. Non mais, on hallucine quand même. De toute façon, mettre des PV, que ce soit pour le cannabis ou d'autres substances, ça n'a pas de sens. Et d'un point de vue sanitaire, je vois pas le rapport en plus. Hein. Une progressivité en fonction des différentes catégories de stupéfiants sera mise en œuvre. Et encore une fois, cela permettra aux forces de l'ordre de se focaliser sur la lutte contre les trafics des drogues dérivées de l'opium, de la coca et des nouvelles drogues de synthèse. La lutte contre les trafics qui gangrènent notre société démocratique doit être au cœur du dispositif et il ne faut pas avoir un discours sibyllin en la matière. Notre démarche est claire. Le trafic de drogue demeure illégal, mais les consommateurs sont considérés comme des personnes toxicomanes, malades, entre parenthèses, plutôt que des criminels. C'est finalement pas très nouveau tout ça. Hein. Ça remonte aux années 80 hein, quand même, cette approche. Ouais, milieu des années 80. Quoi.
Il faut qu'il retourne se coucher. Quoi,
donc
ça
bon, alors Hugo Bernalicis n'est pas le seul membre de la France Insoumise. Il y en a d'autres. Mais là-dessus, je pense qu'ils ont quand même intérêt à revoir un peu leur copie. Parce que, bon, voilà, en tout cas, nous, en tout cas au Cirque, on n'est pas non plus favorable à l'instauration d'une contraventionnalisation pour l'usage d'autres stupéfiants que le cannabis. Voilà quoi, enfin, je vois pas non plus en quoi ça va aider les usagers des autres substances que le cannabis s'ils se prennent des PV. Enfin, bon. Donc bon, on reste un peu sur notre faim. Voilà, et bien Jean Lapointe, sénateur canadien, on en a déjà parlé. Donc voilà, tout ça pour dire qu'au Canada, il y a aussi des prohibitionnistes et des gens qui sont frileux et qui pensent que le cannabis légalisé, ça tuerait des gens. Donc Jean Lapointe, ancien sénateur au Canada, qui visiblement, lui, n'a pas tout compris non plus. C'est la fin de Cannabis Circus ce soir, lundi 16 avril 2018. On vous rappelle la marche mondiale du cannabis le mois prochain, bientôt, le samedi 12 mai, départ 15h, place Carnot, rassemblement à partir de 14h15, 14h30. On en parlera un peu plus la semaine prochaine.
Et puis, 16h20, le 24.
Le
Vendredi, 16h20, place Bellecour.
Bon,
pour
voilà.
Le 420. Je sais pas ce que ça donnerait, je sais pas s'il y aura du monde. En tout cas, on distribuera quelques tracts.
Donc c'était Cannabis Circus, présenté par le Cirque. Vous pouvez joindre au 06 11 53 10 07, nous contacter par mail cirque-lyon@no-log.org. Sinon, encore une fois, je vous rappelle notre page Facebook, notre page Cirque Lyon sur Facebook ou page Cirque. Vous trouvez toutes les infos, les coordonnées, le site internet, etc. Voilà, bonne soirée à toutes, bonne soirée à tous. À la semaine prochaine maintenant, c'est Chasseurs de Son. Allez, au revoir.